Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Sommaire aujourd'hui, une émission consacrée aux dernières sorties bouquins de nos éditeurs préférés. Nous évoquerons Angoisse, exploration d'une collection volume 3, éditée par Artus Film en compagnie de ses deux co-auteurs, Laurent Mantez et Philippe Gontier. Nous reviendrons sur le nouveau volume d'Érotique Bazar consacré par David Didlot à Olivia Del Rio. Enfin, nous aborderons Vive le Feu de Christophe Siebert, nouvel opus de la collection Carnage, publié par Zone 52 Éditions. L'équipe de Culture Prohibée remercie Kevin Boissezon, Jérémy Grima et Thierry Lopez pour leur aide sur cette émission. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur theextasyoffilm.com, sur celui des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr et chez tous les bons libraires. Nous avions abordé Angoisse, exploration d'une collection volume 1 et 2 publié par Artus Film avec ses deux co-auteurs Laurent Mantez et Philippe Gontier. Et bien voilà que les deux grands spécialistes de littérature populaire nous reviennent avec un volume 3 et on va tout de suite écouter Laurent Mantez et Philippe Gontier pour qu'ils nous présentent cet ouvrage. Donc tout de suite, Laurent Mantez et Philippe Gontier au micro de Culture Prohibée.
La collection Angoisse est une collection publiée par le Fleuve Noir entre 1954 et 1974 qui a compté 261 volumes. Et donc, elle publiait des romans fantastiques pour l'essentiel, mais pas que. Le fantastique, c'était à peu près 60%, mais il y avait aussi de la science-fiction, à peu près 20%, et puis du thriller pour le reste. Voilà. Donc, c'est une collection, c'était pas la collection la plus importante du Fleuve Noir, mais elle a eu un succès auprès des amateurs. Et elle a publié des auteurs très connus, à la fois des auteurs généralistes, on va dire, mais aussi beaucoup d'auteurs populaires qui travaillaient chez d'autres éditeurs par ailleurs.
Ah, c'est aussi une collection qui, même si elle ne s'est pas énormément vendue, parce qu'en fin de compte, 261 opus, c'est pas la plus longue collection du Fleuve Noir en termes d'existence, mais qui est restée célèbre aussi pour ses illustrations, ses couvertures qui étaient très belles, très accrocheuses. Principe que vous reprenez vous-même d'ailleurs dans votre livre pour vos couvertures.
Oui, les couvertures de Michel Gourdon ont fait beaucoup pour le succès de la collection et aussi pour le succès des autres collections du Fleuve Noir, puisqu'il illustrait aussi la collection spéciale police ou la collection espionnage, les grands romans. Mais du coup, elle a marqué effectivement les esprits. Et quand on a décidé de faire ce livre, eh bien, on a opté pour un peu des pastiches de ces couvertures. C'est-à-dire qu'on a réalisé des couvertures à la manière d'eux.
Voilà. Dans les deux premiers volumes, hein, dont vous étiez venu parler dans l'émission. Vous décortiquiez donc chacun des 261 opus de la collection Angoisse. Ce volume 3, donc je le répète, Angoisse, exploration d'une collection paru chez Artus Film, est plus, j'ai envie de dire, un travail d'historien que de critique, en fait.
Je pense qu'il faut noter que les romans de la collection Angoisse, bien sûr, c'est des divertissements, hein. Ils sont faits pour ça, mais ils sont aussi révélateurs d'une époque, quoi, hein, des structures psychologiques un peu d'une époque, celle des années 70, en gros, et de la rentrée de la France des campagnes, hein, dans les grands ensembles métropolitains, avec la naissance de l'individualisme moderne. Et donc, on a essayé de faire une lecture un peu socio-historique des auteurs. Donc, on n'est plus dans la critique, on est vraiment dans la biographie des auteurs, la bibliographie, mais aussi ce type d'analyse. Alors, je donne deux exemples. Par exemple, on a Agnès Laurent, qui est une autrice qui a essentiellement écrit Charles Quint et Talandier, des romans sentimentaux, qui a participé à la collection. Et on note, à la fois dans ses romans chez Talandier et puis dans la collection, une forme de féminisme engagé qui correspond complètement au mouvement de libération de la parole féminine à cette époque, quoi. Donc elle est en phase avec son temps, elle est plutôt libérale, son style et ses intrigues sont modernes. Et puis, si on prend un auteur comme Agapi, qui écrit exactement à la même époque, hein, on a un aspect alors complètement réactionnaire, misogyne. Lui, il est tourné vers le passé et donc toute sa production littéraire s'en ressent. Donc voilà, on a des influences comme ça un peu de chaque côté. Agapi, il est dans une influence toute la symbolique chrétienne. Donc en fait, la collection, on voit que la collection est à la frontière entre un fantastique un peu classique, à l'ancienne, qui est inspiré du Moyen-Âge, et puis un fantastique plus moderne, plus intérieur, quoi. Donc c'est un travail d'historien, hein. Il y a des auteurs qui sont résolument du côté du premier, comme Maurice Lima, d'autres qui hybrident les deux, comme Andrevon, par exemple. Et puis d'autres comme ceux que je viens de citer là, qui sont un peu chacun dans leur couloir. Donc c'est une collection très riche à ce niveau-là.
Oui, il y a un aspect historique aussi, on va dire, d'histoire littéraire, dans la mesure où ce volume 3, il traite des auteurs de la collection Angoisse, mais comme je l'ai dit, beaucoup de ces auteurs étaient des auteurs populaires, très connus et très prolifiques à l'époque. Alors, on a parlé de Maurice Lima notamment, je pense aussi à Paul Berato qui signait Yves d'Hermès. Et donc, il y a un côté un peu histoire de la littérature populaire de l'époque à travers l'étude des 39 auteurs qui ont collaboré à la collection.
En quoi cette collection, elle est pour vous représentative de l'état d'esprit de la société française d'alors ?
Ben, disons que on est dans les années 50, ça court de 54 à 74, donc on sent vraiment qu'il y a un attachement chez les auteurs qui ont commencé assez tôt, un attachement aux superstitions des campagnes de l'époque, voilà, vraiment tout le côté symbolique, fantastique, qui est hérité du Moyen-Âge, quoi. Et puis on voit, plus on progresse plus on avance dans la collection, et plus on voit que les thèmes deviennent des thèmes un peu plus, donc sur les grands ensembles, sur une espèce de fantastique un peu plus intérieur, un peu plus avec un malaise plus intérieur. Donc les monstres sont plus, ils apparaissent plus, voilà, ils naissent vraiment de l'intériorité des personnes. Et plus on avance, plus on avance comme ça dans ce genre de fantastique. Et donc ça, moi, ça me semble correspondre à effectivement une espèce de d'anxiété qui monte un peu, mais pas, il n'y a pas que d'anxiété bien sûr à cette époque, mais aussi une forme d'anxiété, les communautés se désagrègent un peu, on rentre dans l'individualisme, et voilà, tout ça se ressent un peu dans la collection. Enfin, moi en tout cas je le vois clairement comme ça, à part quelqu'un comme Agapi qui lui est une espèce de d'ogre qui fait ses délires et qui lui est complètement, alors lui reste complètement dans le fantastique à l'ancienne et refuse complètement le monde qui voit naître sous ses yeux, quoi.
Comme on a pu le constater dans l'émission, lorsqu'on a abordé Angoisse, exploration d'une collection, volume 1 et 2, de nombreuses célébrités quand même ont écrit dans cette collection, hein, dont le regretté Jean-Claude Carrière, pour un cycle autour de Frankenstein qui est quand même assez passionnant. Et une rumeur un peu dingue circulait, hein, sur la collection Angoisse, c'est celle de la participation de Frédéric Dard, le fameux Frédéric Dard, alias San Antonio. Malheureusement, vous la démentez, cette rumeur.
Oui, enfin, c'est-à-dire que nous, on s'est livré à un travail objectif de lecture, d'analyse et de critique, et force est de constater que, à la fois la lecture des romans, mais aussi dans l'étude des auteurs de la maison d'édition, rien, absolument rien, n'indique que Frédéric Dard a écrit dans cette collection. Par ailleurs, beaucoup de fans de Frédéric Dard ont tendance à le voir un peu partout, et si on prenait à la lettre ce qu'on lui attribue en dehors de son œuvre connue, le malheureux, il aurait fallu qu'il ait au moins deux existences pour tout écrire. Hein. Par exemple, on lui a attribué à un moment les romans de Frédéric Valmain, le malheureux, qui a été obligé de démentir avec force cette affirmation et dire que c'était bien lui qui écrivait ses livres en montrant les contrats d'édition pour se justifier, ce qui est quand même assez terrible pour un auteur de devoir se justifier et prouver que c'est bien lui qui écrit ses livres. Après, rien que dans la collection Angoisse, on peut citer l'exemple d'Agnès Laurent. Sur les blogs, pendant un certain temps, on a affirmé que Agnès Laurent, c'était Frédéric Dard, tout simplement parce que la personne qui défendait cette hypothèse, elle avait confondu Agnès Laurent, l'écrivain, avec Agnès Laurent, une actrice, qui avait effectivement tourné des tout petits rôles dans un ou deux films adaptés de Dard. Et donc voilà le genre de confusion qui a fait qu'on a eu tendance à voir Dard un peu partout. Donc nous, on s'est livré un travail d'analyse et rien ne montre que Dard a écrit dans la collection. Même si, par ailleurs, on a pu trouver un peu sa trace, il nous semble, dans les romans de Jean Murelli, où par moments, dans un style assez classique, il y a des espèces de fulgurances de dialogue à la Frédéric Dard. Alors, nous, on pense que le directeur de collection, François Richard, a peut-être donné à Frédéric Dard les manuscrits de Jean Murelli, alias Jeanne Peu, pour un peu les booster avec des choses un peu croustillantes qui faisaient le succès de Dard. Bon, malheureusement, c'est pas toujours une réussite parce que ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais à part ça, rien ne montre que Dard ait écrit dans la collection Angoisse.
Alors, par contre, dans Angoisse, exploration d'une collection volume 3, donc qui est disponible chez Artus Film, vous vous heurtez à une énigme, celle d'un certain Franck Puig, alors, qui s'écrit FRANC et plus loin Puig, PUIG.
Oui, donc un patronyme un peu à consonance espagnole. Malheureusement, là encore, à la lecture du roman, on constate que le style est très éloigné de Dard. Bon, c'est pas un roman de très très grande qualité. Et d'autre part, j'ai un exemplaire dédicacé et l'écriture de Franck Puig ne ressemble absolument pas à celle de Frédéric Dard. Donc là encore, ceux qui ont vu Frédéric Dard derrière ce nom se sont trompés. Mais pour autant, nous n'avons pas pu percer à jour l'identité de cet auteur. C'est le seul dont on ne connaisse pas l'identité réelle.
Vous écoutez Laurent Mantez et Philippe Gontier, co-auteurs de Angoisse, exploration d'une collection volume 3 édité par Artus Film, au micro de Culture Prohibée. J'ose à peine imaginer la quantité de documentation que vous avez dû amasser, le nombre de témoins que vous avez dû trouver. Ça a pris combien d'années de réunir tout ça, pour arriver à cette somme quoi, qui est là quand même très très complète sur les auteurs de la collection.
Alors déjà, pardon, rendons à César ce qui est à César. C'est Philippe qui est à l'origine du projet. Moi, je me suis greffé dessus. Alors Philippe, je ne sais plus, tu as démarré en quelle année, 2014 ?
Oui, quelque chose comme ça, oui, ouais, 2014.
14, donc moi j'ai dû me greffer dessus en 2015. Et donc vous voyez, on a alors bon, bien sûr, on n'a pas tous les jours pendant 7 ans, 8 ans, mais ça a couru sur 7 bonnes années avec des moments de boost où on était obligé, pris un peu par le temps, d'accélérer, des moments un peu plus calmes. Mais oui, à force d'accumuler, en fait au début on était parti sur un projet en 2 volumes. Et puis voyant qu'on accumulait effectivement de la documentation, Philippe avait déjà beaucoup de documentation qu'il avait glanée au cours de ses recherches. Et puis avec les ayants droit, avec les personnes qu'on arrivait à retrouver, on s'est dit qu'on allait partir sur 3. Et puis finalement on en fera 4 parce qu'effectivement on a fait un vrai travail de recherche. Ouais, c'est clair.
Alors. Angoisse, exploration d'une collection volume 3, donc disponible chez Artus Film, pour moi, possède un indéniable plus par rapport aux 2 précédents volumes. C'est la présence d'entretiens avec les auteurs, dont beaucoup d'ailleurs sont signés Georges Naon. Vous pouvez nous présenter Georges Naon ?
Oui, alors Georges Naon, c'était il écrivait dans la revue Horizon du Fantastique dans les années 70, hein, une revue célèbre à l'époque. Et il écrit des articles et c'était également un intervieweur infatigable qui a transmis d'ailleurs des documents précieux à Philippe. Et donc il a interviewé alors des auteurs comme Max-André Réjean, comme François Richard, directeur de collection, Kurt Steiner, Marc Agapi, voilà. Et donc c'est un monsieur âgé maintenant, mais voilà, qui nous a transmis des documents, des interviews. On a récupéré aussi des interviews qu'il avait fait dans les bulletins du Fleuve Noir de l'époque. Et notamment, il y a une anecdote sympa avec Georges Naon, c'est qu'il avait une interview de Bruce qui traînait dans un de ses tiroirs depuis 1969 et qui était en bande de l'époque, hein, voilà, qui se lisait uniquement sur des magnétophones de l'époque. Et donc, il ne savait pas comment faire pour en tirer quelque chose. Donc, j'ai récupéré la bande, je l'ai fait traiter et on a récupéré donc un interview de Bruce qui a plus d'un demi-siècle, quoi. Voilà.
Oui, il y a dans ce volume, il y a des trésors à lire. Hein. Il y a aussi un certain Philippe Gindre qui a interviewé Jean-Pierre Andrevon. Est-ce que vous pouvez nous le présenter aussi ? Parce qu'en fait, il y a dans cette longue tâche qui a pris donc de nombreuses années, vous avez aussi pu rencontrer donc des gens qui vous ont filé, en plus de Georges Naon, des coups de main et qui ont apporté de précieuses contributions à cet ouvrage.
Oui. Philippe Gindre, donc c'est un spécialiste de Lovecraft. Hein. Il a participé à la traduction d'une quarantaine de textes de Lovecraft quand l'intégrale est parue chez Robert Laffont en 91-92. Il est le fondateur des éditions de la Clé d'Argent et il a publié à la Clé d'Argent Jean-Pierre Andrevon. Voilà, il a également dirigé une édition critique d'un recueil d'Edouard Gans, un auteur du début du XXe. Donc on a naturellement pensé à lui pour l'interview d'Andrevon. Il y a une très très chouette interview d'Andrevon par Philippe Gindre dans le tome 3. Et il y a aussi Jean-Guillaume Lanu qui a réalisé des fiches d'auteurs remarquables, hein, voilà, qui est enseignant et qui s'intéresse à l'histoire de la science-fiction sous un angle politique.
Alors j'ajoute qu'il y a une forte proximité avec Philippe Gindre, puisque comme Laurent l'a dit, il a créé les éditions La Clé d'Argent. Et quand il a souhaité arrêter, Jean-Pierre Favard et moi-même avons repris la suite. Donc maintenant je m'occupe avec Jean-Pierre Favard des éditions La Clé d'Argent. Et Philippe Gindre est aussi traducteur, donc il nous a été très utile pour certaines fiches dans les 2 premiers volumes. Et puis aussi dans ce 3e volume.
Donc c'est vraiment une question de transmission, c'est assez, assez passionnant. D'ailleurs, on va essayer alors, de faire le tour au moins des auteurs en tout cas qui ont été rencontrés par vous ou par les différents collaborateurs à cet ouvrage. Et en premier lieu, dans Angoisse, exploration d'une collection volume 3 paru chez Artus Film, moi je voulais qu'on parle, parce que ça m'a l'air d'être un personnage assez particulier, de Marc Agapi, dont vous avez déjà un tout petit peu parlé tout à l'heure, qui, dans le langage un peu trivial, on dirait c'est un ours, quoi. Ça a l'air d'être un type un peu à part, quoi, qui en plus semble être particulièrement solitaire.
Ouais. Alors on l'a pas rencontré puisqu'il est mort, je sais plus la date, mais il est mort il y a de nombreuses années. Oui, Marc Agapi, c'est une espèce d'ovni dans la collection, c'est un espèce de misanthrope un peu fou, très radical. En littérature française, moi je vois guère que, alors au niveau de l'écriture, je vois guère que l'autre amant, qui se rapproche de ce qu'il a fait en termes de radicalité. Alors c'est pas sur le même style d'écriture, mais oui, c'était quelqu'un d'assez solitaire. Qui d'abord avait espéré rentrer dans les grandes maisons d'édition, qui a publié un roman qui a assez bien marché, d'ailleurs, Le Valet, qui a reçu une bonne critique à l'époque, et qui résume un peu toutes les thématiques qu'il développe après dans les 42 ouvrages de la collection Angoisse. Donc c'est un type très particulier. On a réussi à retrouver sa trace. Alors, il a fallu qu'on fouille dans les archives, qu'on fasse un... Parce que, bon, on savait pas où est-ce qu'il était enterré. On retrouvait pas les ayants droit. On a finalement réussi à retrouver la tombe. On a retrouvé les ayants droit qui nous ont transmis des photos, des documents complètement géniaux, avec des photos de lui, jeune, plus âgé. Voilà, donc c'est un misanthrope, quelqu'un qui se donne complètement dans ce qu'il écrit et qui mélange alors une espèce du théâtre moyenâgeux avec de la littérature fantastique, de la littérature d'horreur, de la littérature policière. Il hybride un peu tous les genres, mais le style directeur, il essaye de disséquer un peu la psychologie humaine avec toutes ses failles, avec ses vices, avec ses voilà. Donc on pourrait faire une analyse. Alors, c'est toujours délicat d'analyser un peu les auteurs quand ils sont morts à travers leurs textes, mais lui-même nous dit de le faire. Donc voilà, allons-y. On peut lire une espèce de peut-être d'homosexualité un peu honteuse. Dans Le Valet, c'est assez clair. Il y a aussi beaucoup de passages dans les romans où on a des espèces de scènes qu'on peut interpréter à double lecture. Voilà, donc c'est un auteur passionnant. Moi, j'encourage les lecteurs à lire les bouquins d'Agapi. C'est vraiment c'est assez hors norme.
C'est vraiment l'auteur le plus connu et le plus emblématique de la collection, et parce qu'il en a, c'est lui qui a publié le plus de romans, mais aussi c'est celui qui a le plus marqué les lecteurs.
Alors, on va continuer cette liste. Alors, quand je parle de rencontres, c'est des rencontres parfois qui sont au passé, évidemment, mais en tout cas d'expression des auteurs que vous reproduisez dans l'ouvrage. Et parmi ces auteurs, il y a B.R. Bruce, qui est B.R.U.2.S., qui est dont vous avez déjà parlé tout à l'heure. C'est pareil, qui est un auteur. En tout cas, ce qu'on peut en lire là est passionnant, quoi.
Oui, alors B.R. Bruce, c'est un auteur généraliste au départ, ils sont vraiment ses bonnes fois. Il a publié des romans avant-guerre, des romans généralistes chez des grands éditeurs. Et puis, malheureusement, pendant l'occupation, il a participé au gouvernement de Vichy, ce qui fait qu'à la libération, il a été un peu ostracisé, il avait du mal à publier dans les grandes maisons d'édition, et donc pour gagner sa vie, il s'est mis à la littérature populaire, notamment la science-fiction et l'angoisse, dans la collection Angoisse, et il est devenu un auteur très important. Et l'intérêt, c'est qu'il avait acquis quand même, enfin il avait un grand talent d'écriture classique, on va dire, qui lui a servi dans sa nouvelle carrière d'auteur populaire.
vous écoutez Laurent Mantez et Philippe Gontier, co-auteurs de Angoisse, exploration d'une collection volume 3 édité par Artus Film, au micro de Culture Prohibée. Comment se passe la rencontre avec Jean-Pierre Andrevon ? Parce que lui, il a traversé les générations.
Effectivement, c'est une légende de la littérature de science-fiction en France. Il a beaucoup de cordes à son arc, hein, puisqu'on sait qu'il écrit dans la revue L'écran fantastique, qu'il s'intéresse beaucoup au cinéma, il a publié des ouvrages sur le cinéma. D'ailleurs, au départ, il s'en cache pas, il aurait voulu faire du cinéma, et en fait, comme il l'explique, ses romans, ce sont en fait les films qu'il n'a pas pu tourner, qui couche sur le papier. Donc c'est un auteur très très important. Il est d'ailleurs publié par La Clé d'Argent, vous voyez, on revient toujours un peu au même cercle. Et donc on a eu accès à lui, notamment par Philippe Gimbre. Et puis, c'est quelqu'un d'extrêmement gentil, ouvert, et qui est vraiment attaché à la collection Angoisse. Vraiment, c'est une collection dans laquelle il rêvait de publier quand il était jeune. Finalement, il a réussi à le faire, et il a gardé vraiment un attachement très très fort pour cette collection, ce qui fait que quand on l'a contacté, enfin, via Philippe Gimbre pour l'interview, et puis Laurent a beaucoup correspondu aussi avec lui par mail, pour demander des renseignements sur certaines choses, sur des auteurs qu'il avait connus. Il a toujours été très disponible et très gentil.
Et c'est avec Max-André Régent, les deux derniers auteurs encore en vie.
Oui, pratiquement. Je crois qu'il y en a. Il y a Pierre Suragne aussi.
Pierre Pelot, oui, c'est vrai.
Pierre Pelot, oui.
Ouais, ouais.
Mais oui, c'est un des derniers auteurs vivants de la collection. Donc il a et puis il connaît très 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 bien tout le milieu de la littérature populaire, puisqu'il le fréquente depuis des décennies. Donc son aide a été précieuse.
Alors Pierre Pelot, autre légende du fantastique, du thriller à la française en littérature populaire. Je crois que on peut dire que lui aussi est un auteur majeur quand même.
Oui, tout à fait.
Ah oui, bien sûr, Pierre Pelot, c'est un auteur majeur, autant que Andrevon, il est aussi connu que lui d'ailleurs. Il a aussi œuvré dans beaucoup de genres et c'est un très très grand auteur, bien sûr. Mais la collection, elle recèle justement à la fois un peu des auteurs, on va dire, populaires, dans le bon sens du terme, mais peut-être avec quelque chose d'assez standardisé, et puis des gens étonnants. Vous avez cité Jean-Paul Carrière, mais il y a eu aussi Jean-Claude Carrière, pardon, mais il y a eu aussi Christiane Rochefort qui a écrit dans la collection deux romans, qui était une auteure très très connue à l'époque. Et puis il y a eu aussi un autre grand auteur de la collection, c'est Georges-Jean Arnaud, qui est aussi un immense auteur populaire. Donc la collection, elle recèle quand même des personnalités très 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 importantes et très intéressantes.
Alors en parlant, vous en parliez à l'instant, vous avez parlé de cinéma, vous avez parlé de J.J. Arnaud, effectivement lui aussi très grand auteur, on a parlé de Pierre Pelot. En parlant de Jean-Pierre Andrevon, on a parlé de cinéma. Bon, qui dit cinéma, évidemment on peut difficilement passer sous silence la contribution de Jean-Claude Carrière, qui en plus nous a quitté il y a peu de temps, personnalité adorable, très abordable, malgré son immense carrière, y compris pour le 7e art, qui en plus a signé avec ses Frankenstein, là, quelque chose moi, que je trouve assez passionnant en termes d'écrit de science-fiction. Jean-Claude Carrière, que vous avez pu rencontrer en plus à deux, donc c'est un entretien, c'est peut-être même un de ses derniers entretiens d'ailleurs à Jean-Claude Carrière, qu'on peut lire dans Angoisse, exploration d'une collection, volume 3.
Alors, je ne sais pas si c'est le dernier, mais c'est sûrement un des derniers, effectivement. Donc, il nous a reçus chez lui très gentiment dans sa magnifique maison à Paris. Et on a passé 2 heures avec lui à discuter de choses et d'autres. De la collection Angoisse, mais pas tant que ça, parce que pour lui, sa collaboration, sa contribution à la collection Angoisse, ce sont donc les 6 romans consacrés au cycle de Frankenstein que vous avez cité. Pour lui, c'était vraiment un travail alimentaire à un moment où il sortait de ses études, il commençait à travailler, et donc il avait besoin d'argent, et un de ses amis lui avait indiqué la maison Fleuve Noir qui cherchait des auteurs. Donc c'est comme ça qu'il a publié, mais il a eu peu de contact finalement avec les autres auteurs, et une fois qu'il a eu fini ses 6 romans, il a fait complètement autre chose. Il est parti travailler avec Pierre Etex, avec des gens très connus dans le cinéma, et donc voilà. Donc, mais on a pu discuter à bâton rompu de quantité d'autres choses, justement sur la littérature, sur le cinéma, qu'on a gardé bien sûr dans l'interview, parce que c'était un personnage fascinant.
Oui, parce que cette interview, c'est vrai, elle va bien au-delà de la collection Angoisse.
Oui, elle traite du fantastique en général, de beaucoup d'autres choses, de ses idées. Il y a des anecdotes. On en arrive même à parler un peu de cinéma, de cinéastes comme Jésus Franco, hein, qui ont un lointain rapport avec la collection. Mais il nous a semblé que c'était tellement intéressant qu'il fallait le garder.
Et ce que je retiens, moi, de cette rencontre avec Jean-Claude Carrère, c'est ce qu'il disait, c'est qu'il n'y a pas de différence entre la littérature populaire et ce qu'on appelle la littérature générale, ou la littérature fantastique et la littérature générale. Aujourd'hui, on fait parler d'eux, mais à l'origine, elles ont toujours été reliées, et donc c'est uniquement des choix sociaux, quoi, de séparation. Donc voilà, moi je retiens ça de lui.
Oui, d'ailleurs, il avait beaucoup d'admiration pour certains auteurs populaires, comme Gaston Leroux, qu'il considérait comme vraiment un très très grand écrivain.
Ouais, ou André Delorde, disons comme ça, ouais, tout à fait.
Voilà.
Ouais.
Oui, Maurice Renard, qu'il a tenu à citer d'ailleurs.
On est dans une époque où parfois on adule des choses qui ne sont pas forcément exceptionnelles, mais en tout cas, on peut constater une certaine réhabilitation de ce qui était considéré comme de la sous-littérature autrefois. On a la même chose avec le cinéma, parfois à l'excès. On parlait de Jésus Franco, pour moi c'est un bon exemple qu'on célèbre parfois à l'excès, je trouve, par rapport aux qualités de ses œuvres. Voilà. Quel regard vous portez là-dessus, vous, sur justement cette réhabilitation à laquelle vous participez, justement, grâce à votre travail d'auteur et puis d'éditeur aussi, d'ailleurs?
Ce qui est compliqué avec le parce que nous on est vraiment sur la littérature fantastique. Donc le fantastique fonctionne pas du tout en librairie, c'est même assez étonnant, hein. Ça fonctionne énormément bien à la télévision. Il y a des aux États-Unis, mais même en France, hein, sur les plateformes télé, c'est impressionnant. Et par contre, dès que ça passe en littérature, ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est la SF est très très bien réhabilitée. Ce qui fonctionne très bien, c'est la fantasy. Mais le fantastique en lui-même, ça va peut-être revenir, hein, mais pour l'instant, c'est pas ça. Alors, c'est étonnant parce que le prix Goncourt à la base, par exemple, c'est entre guillemets le meilleur roman d'imagination dans son fond et dans sa forme. On est maintenant très loin de ça. Donc, quand il y a un livre fantastique, à la rigueur, ou qui aurait une connotation fantastique et qui marche bien, il est plus du tout, il est sorti des rayons imaginaires et puis il rentre en littérature générale. Donc, en fait, il y a un cloisonnement assez bizarre, que moi j'ai du mal à comprendre, que je trouve assez prétentieux d'ailleurs. Mais bon, voilà, c'est comme ça, hein, c'est comme ça, et on peut pas faire autrement pour l'instant. Ça viendra peut-être. Un auteur comme Houellebecq, c'est un auteur qui baigne dans l'imaginaire, dans le fantastique aussi, hein, à sa manière. Donc bon.
Alors, justement, pour rebondir, il faut quand même noter, beaucoup de gens l'ont oublié, mais que le premier lauréat du prix Goncourt en 1903, c'est un auteur qui s'appelait John Antoine Nau. NAU, et il a eu le prix Goncourt pour un roman de science-fiction qui s'appelait Force Ennemi. Et donc on s'est quand même considérablement éloigné des origines.
Vous écoutez Laurent Mantez et Philippe Gontier, co-auteurs de Angoisse, exploration d'une collection volume 3 édité par Artus Film, au micro de Culture Prohibée. Parmi les auteurs qui s'expriment dans Angoisse, exploration d'une collection volume 3 paru chez Artus Film, il y a Maurice Lima aussi. Il y a Maurice Lima. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur Maurice Lima ?
Oh ben Maurice Lima, c'est un des plus importants auteurs populaires, on va dire, dans la période des années... Il a démarré dans les années 1930 et il a publié jusque dans les années 70, donc pendant 40 ans. C'est un auteur qu'on trouve dans absolument toutes les collections populaires de l'époque. Il a travaillé dans tous les genres, soit la science-fiction, l'aventure, le policier, l'espionnage, le roman sentimental. Il a vraiment ratissé tout le spectre de la littérature populaire et c'est un auteur extrêmement prolifique. Alors lui, c'est vraiment un auteur populaire pour le coup, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la qualité d'un Jean-Claude Carrière voilà, ou d'un Bruce, c'est de la littérature très plaisante, de divertissement, et c'est un auteur aussi très important à sa manière. Et donc, il a travaillé notamment dans la collection Angoisse, où il reprend d'ailleurs un personnage qu'il avait créé tout au début de sa carrière, un enquêteur de l'étrange, un détective de l'étrange.
Et c'est sans doute dans le fantastique qu'il a produit ses meilleures œuvres, parce que là, il se lâche complètement, il y a une très belle écriture, et voilà. Et pour en revenir à Andrevon a critiqué dans la revue Fiction Maurice Lima comme étant le représentant de la vieille garde du fleuve noir, qui serait quelqu'un d'un peu réactionnaire, un peu englué dans le passé, quoi. Donc il y avait aussi ces tensions-là entre les auteurs à l'intérieur de la collection.
Oui, il y avait une grande diversité à la fois d'origine, d'âge et d'orientation politique dans la collection. On trouve vraiment des gens qui sont à l'extrême l'un de l'autre.
Bah, c'est ça qui est passionnant aussi hein, dans cette collection, justement, c'est qu'elle n'est pas... Elle n'est pas uniforme, enfin, elle est très variée, alors dans la qualité d'écriture aussi, mais dans. Bon, j'ai pas lu les 261 opus, hein, j'ai pas cette prétention, j'en ai lu quelques-uns, mais il y a une grande variété dans les styles, dans les auteurs, c'est ce qui fait la force et la particularité de cette collection assez unique quand même.
Absolument, absolument. C'est-à-dire qu'on trouve effectivement Jean-Claude Carrière et puis à côté Yves Dermez ou Maurice Lima ou d'autres auteurs populaires. Et effectivement, c'est ça qui fait la richesse et la diversité de la collection et qui fait qu'on ne s'ennuie jamais dans cette collection.
Il y a aussi un auteur, alors là pour le coup j'ai eu le plaisir de lire, qui est un auteur que je trouve assez, assez brillant, c'est Max-André Réjean qui s'exprime aussi dans votre ouvrage. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur Max-André Réjean? En plus, Réjean, Jean Rey, tout de suite, ça évoque plein de mondes imaginaires et plein de comment dire, une autre grande plume du fantastique.
Oui. Et alors, Réjean, moi au début je pensais effectivement que c'était un hommage à Jean Rey, en fait pas du tout. Il adopte en fait le prénom pour son Réjean, c'est la contraction des prénoms de sa sœur aînée, Raymonde, et du sien. Donc rien à voir avec Jean Rey. Donc c'est Jean Lombard de son vrai nom, il est né à Valence, il a passé la quasi-totalité de son existence dans sa ville natale. Hein. dans les Alpes-de-Haute-Provence. Et donc c'est un auteur très 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 sympathique. Alors il est dans la collection Angoisse, il produit beaucoup de romans de terroir en fait, donc avec un fantastique de terroir et où justement il s'attache à décrire les Alpes de Haute-Provence, les montagnes, les régions de son pays natal. Donc il y a là pour le coup, alors que c'est par ailleurs un auteur de science-fiction, mais là dans la collection Angoisse, il fait vraiment, lui pour le coup, il fait vraiment un hommage au fantastique à l'ancienne, qui est imprégné de culture paysanne, de superstition, de campagnarde, voilà.
C'est ce que j'aime, moi, chez Régence. C'est-à-dire qu'on est, dans quelque chose qui a un ancrage aussi franco-français quelque part, parce que souvent, il y a des auteurs qui essayent d'aller un peu au-delà de nos frontières. Non, lui, il est vraiment très ancré dans un fantastique à la française, quoi.
Ouais, tout à fait. Et pour en revenir à ce qu'on disait au début, lui, typiquement, il rejette complètement la naissance du tourisme, l'envahissement de son pays natal par des hordes de touristes et donc les romans tournent beaucoup autour de cette idée que finalement les citadins sont en train de créer un mode de vie qui va les aliéner et que la pureté de l'existence se situe pour vivre heureux, vivons cachés dans le pays où on est né, quoi.
Les auteurs aux visées parfois les plus réactionnaires, en tout cas qui prenaient le plus le repli sur soi, pouvaient être les meilleurs auteurs fantastiques qui soient, si on prend Lovecraft par exemple.
Oui, bien sûr, c'est aussi le cas par exemple de B.R. Bruce, hein, qui malgré son passé collaborationniste est un très 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 grand auteur, très très grand auteur. Et un grand écrivain. Donc oui, les choses. Bon, après, on peut citer aussi l'exemple de Céline, enfin, ou d'autres gens qui, dont on peut dissocier les qualités d'écrivain et puis l'idéologie.
Il y a plein d'auteurs abordés dans l'ouvrage, hein, mais je voulais aussi parler d'une autrice. On dit autrice aujourd'hui, Nathalie Rocher, qui est présente dans la collection. Parce que quand même, c'est une collection, je trouve, qui faisait, comme d'autres collections d'ailleurs à l'époque, hein, souvent sous pseudo, mais qui faisait, où il y avait pas mal de femmes publiées, en fait.
Oui, il y avait pas mal de femmes publiées, c'est vrai. Et donc, en fait, Dominique Rocher, c'est une... c'est la compagne de André Rocher, qui était auteur au Fleuve Noir également, hein. Sous le pseudonyme de Michel Saint-Roman. Donc c'est une autrice intéressante aussi parce que voilà elle utilise beaucoup les nouveaux métiers qui se développent beaucoup dans le tertiaire, donc des médecins, des psychiatres, c'était une personne très angoissée, nous ont dit ses enfants. Et elle était vraiment dans une recherche un peu ésotérique, la littérature fantastique était aussi un moyen pour elle de sortir un peu du quotidien, d'aller vers des choses un peu étranges, mais comme beaucoup d'auteurs hein, d'ailleurs hein, de la collection qui sont beaucoup dans la pensée magique, hein, si on creuse un peu la télékinésie, les choses comme ça, ça leur fait pas peur et ils y vont franchement. C'est une auteure très intéressante aussi. Philippe, tu vois quelque chose à dire sur elle ?
Non, mais je voulais juste dire qu'effectivement, la collection Angoisse, elle a publié quand même 6 auteurs féminins. Alors, il y a Evangeline Walton, qui est une Américaine, mais il a quand même publié 5 auteurs, 5 autrices françaises, ce qui, à l'époque, est bien déjà.
Et souvent, d'ailleurs, ce que je constate, hein, en tant qu'amateur de littérature populaire, c'est que ce soit dans le fantastique, mais même dans d'autres genres, il y avait en fait pas mal d'autrices qui étaient publiées dans ces collections-là, peut-être parce qu'elles avaient plus de difficultés, alors je ne sais pas, c'est une hypothèse, hein, à se faire publier dans d'autres collections, quoi, ou chez d'autres éditeurs plus prestigieux, on va dire.
Ben, je crois aussi que les femmes, comme l'a dit Laurent, elles sont souvent attirées par le fantastique. C'est un genre qu'elles aiment bien, alors qu'elles seront moins intéressées par l'espionnage ou la science-fiction. Les autrices sont souvent plus attirées par le policier, le thriller, mais aussi par le fantastique. Donc je pense que ça explique aussi la présence de femmes dans la collection Angoisse, alors qu'à la même époque, par exemple dans la collection Espionnage, je ne pense pas qu'il y en ait. Et en science-fiction non plus, ou très très peu. Donc voilà, je pense que c'est aussi une explication.
Alors, je ne peux pas conclure cet entretien au sujet d'Angoisse, exploration d'une collection volume 3, sans vous demander un peu, de parler du prochain volume, puisque vous avez vendu la mèche pendant l'entretien, vous nous avez dit qu'il y aurait un quatrième volume. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Est-ce que vous avez quelques infos dessus? Et puis, comment vous voyez la suite des aventures de votre travail sur la collection Angoisse? Et puis, avez-vous d'autres projets d'ailleurs à côté?
Alors sur l'ouvrage sur la collection Angoisse, il va y avoir effectivement un quatrième volume, et comme l'a dit Laurent, normalement il devait y en avoir deux. Donc on peut remercier l'éditeur d'accepter de publier quatre volumes sur un seul ouvrage, enfin sur une seule collection, pardon, ce qui est quand même assez courageux. Et le quatrième volume, eh bien dedans on va trouver les adaptations en bande dessinée, les adaptations au cinéma, les adaptations au théâtre, parce qu'il y en a eu aussi, au théâtre du Grand Guignol. On va trouver quelque chose sur Michel Gourdon, bien sûr, qui est incontournable dans la collection. On va trouver des compléments sur les auteurs, parce que nos recherches continuent bien après la publication du volume 3. Donc on a réuni à nouveau des informations inédites, des documents inédits qui figureront dans le volume 4. Il y aura aussi quelque chose sur les collections qui étaient concurrentes de Angoisse à sa naissance. Enfin voilà, des choses comme ça, et puis des documents aussi inédits qu'on n'avait pas eu la place de mettre dans les trois premiers volumes, donc des photos, des choses inédites, voilà.
Ben on en salive d'avance.
Ça sera le dernier. Là, pour le coup, c'est sûr qu'il n'y en aura pas cinq.
D'accord. Et on va également, il y aura une petite partie sur une traduction des romans Angoisse en Allemagne, avec des illustrations absolument géniales. C'est la maison d'édition Eric Papel Verlag, et il y a vraiment des super illustrations. Voilà, il y aura un peu de ça aussi avec des auteurs comme Agapi, Arnaud, Randa, Maurice Klima, Keller, qui ont été adaptés en Allemagne.
Voilà, donc il y aura une iconographie assez riche encore dans ce volume 4.
Bah écoutez, on va déjà rappeler que les trois premiers volumes sont disponibles donc chez Artus Films. Ça s'appelle Angoisse, exploration d'une collection, et c'est donc signé par vous, Philippe Gontier et Laurent Mantez. On les trouve aussi d'ailleurs dans la boutique des films de la Gorgone qui coproduit cette émission, lesfilmsdelagorgone.fr. Écoutez Culture Prohibée spéciale sortie bouquin. Je vais faire le tour assez rapidement sur d'autres sorties. Je voulais vous signaler le dernier volume en date d'Érotique Bazar, qui est un fanzine prosine qu'on soutient depuis son lancement, qui est signé de notre ami David Didlot, alors qui part ce nouveau numéro d'une rencontre manquée au cinéma Saint-André des Arts avec l'actrice Olivia Del Rio, qui est une actrice à la base une Brésilienne venue en France pour se soigner d'un éventuel cancer, en tout cas de ce qui lui avait été diagnostiqué, laissant sa progéniture, son mari au Brésil, et puis qui en fait s'aperçoit qu'elle n'est pas, ce qu'on découvre dans l'entretien publié dans l'ouvrage, que son médecin s'est complètement planté, puis une fois qu'elle est en France, elle devient femme de ménage, et elle devient femme de ménage entre autres de Patrice Cabanel, réalisateur de films porno. Donc évidemment, voyant la belle Olivia Del Rio, il va se dire qu'elle a un potentiel pour devenir actrice de films pour adultes, voilà. Et alors moi, mon petit regret, c'est qu'il va un peu la transformer par le biais d'opérations, tout ça, alors qu'elle était très jolie déjà à la base, mais bon, c'est comme ça. Il faut correspondre à des critères. Et elle va être emblématique, cette actrice, contrairement à beaucoup de livres sur la pornographie. On aborde souvent la période des années 70 avec des actrices mythiques, voire un peu les années 80, c'est-à-dire la période du 35 mm, j'ai envie de dire, c'est-à-dire la période où la pornographie, c'était encore du cinéma, avec des grands réalisateurs comme Gérard Kikoine, par exemple, qui est déjà venu dans cette émission, ou Claude Mulot, entre autres. Et comment dire, là, c'est différent. Cette actrice, c'est une actrice d'une autre période. C'est une actrice qui a même fini par tourner des gonzos. C'est-à-dire ces sortes de petites scénettes sans scénario qui font la joie des amateurs de sites internet. C'est intéressant dans le sens où elle est le symbole d'une autre époque, donc, et que tout cela est abordé, décortiqué par notre ami David Didelot dans ce bouquin qui est, alors vous l'avez certainement déjà acheté si vous êtes intéressé par le sujet, mais enfin on vous le dit quand même, il est disponible entre autres auprès des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Et puis petite anecdote qui a peut-être été un peu oubliée d'ailleurs, faut savoir qu'elle a tourné deux fois Olivia Del Rio pour Cédric Clapiche. Par contre, dans le livre, on apprend qu'elle ne se faisait aucune illusion sur le fait qu'elle serait une actrice traditionnelle. Elle ne se considère pas du tout comme une actrice traditionnelle. Voilà. Donc, ça s'appelle Olivia Del Rio, Porno Total. C'est le nouveau numéro d'Erotique Bazar. C'est une publication, bien évidemment, interdite aux mineurs, mais qui s'intéresse au cinéma de genre que nous défendons globalement dans l'émission. Nous intéressons à tous les genres. Et je vais retourner à la fiction maintenant pour vous parler d'un des derniers opus de la collection Carnage, donc des éditions Zone 52, un ouvrage également disponible dans la boutique des films de la Gorgone, toujours avec de très belles couvertures signées de l'artiste Will Argunas. Et c'est un livre de Christophe Siebert qui s'appelle « Vive le feu ». Alors depuis maintenant quelques années, Christophe Siebert, dont on avait déjà parlé dans l'émission, entre autres pour Ashram, qui a été publié chez Gordes Alpes, depuis quelques années, il a développé une suite de livres qui se passe au Mervegorod, qui est un territoire situé quelque part entre la Russie et l'Ukraine. Alors il a commencé à créer ce territoire bien avant, malheureusement, le conflit qui endeuille l'Europe aujourd'hui, en tout cas les frontières de l'Europe. Et c'est, l'histoire d'un petit pays qui est devenu une terre, qui est devenue ultra-libérale en fait, après avoir passé des années sous le joug soviétique. Et là, il s'intéresse, Christophe Siebert, à une femme divorcée qui s'appelle Masha, qui est une prof qui va perdre son travail vous le découvrirez en lisant le livre, qui est alcoolique au plus haut point, qui va faire plusieurs tentatives de suicide. Enfin, on se marre toujours autant chez Christophe Siebert, voilà, et qui va finir par perdre, ça va très vite, c'est dès les début du bouquin, qui va finir par perdre son ex-mari et sa fille, tragiquement, sans que chez elle, cela ne déclenche particulièrement d'émotions. Donc, elle s'interroge beaucoup et puis elle va finir, tellement elle s'ennuie, parce qu'elle va toucher de l'argent suite à ce décès, une assurance vie, et donc elle va être riche, mais elle va continuer à s'ennuyer et elle va s'inscrire sur un site de rencontre et elle va finir par rencontrer quelqu'un qui paraît aussi désespéré et elle va avoir une histoire d'amour platonique avec cette personne qui va se terminer de manière dramatique, bien évidemment, puisqu'on est chez Christophe Siebert et qu'on n'est pas du tout dans la collection Harlequin. D'ailleurs, c'est pas vraiment l'histoire de deux vies qui se rencontrent, c'est plutôt deux solitudes qui se rencontrent, voire même deux morts en sursis qui se rencontrent. C'est vraiment, leurs existences semblent être, alors pour elle, un long suicide, pour lui, beaucoup moins long, puisqu'il est beaucoup plus jeune qu'elle. Tout ça n'est donc pas très gai, c'est écrit avec style. Même si, en fin de compte, moi, je trouve que c'est quand même assez éloigné des autres livres de la collection. C'est pas spécialement gore, c'est pas spécialement porté sur l'érotisme, c'est pas spécialement fou, c'est de la bonne littérature. Mais pour moi, c'est un peu un ovni, c'est un peu à part dans la collection. Disons que les fans habituels de la collection seront peut-être un peu décontenancés par cet ouvrage qu'on vous recommande quand même, hein, puisqu'il faut soutenir les éditions Zone 52 et la collection Carnage. Donc ça s'appelle Vive le feu, c'est signé de Christophe Siebert. Et c'est certainement l'ouvrage le plus dépressif que j'ai lu depuis fort longtemps. Forcément, du coup, on vous le conseille vivement.
Vem dançar comigo, gente. Tô aqui esperando. Vem logo, vem logo. Não fica aí parado, não.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission aidée à la technique par l'ami Damien Demey, dit La Bête Noire de Compiègne. And the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Magnin à l'architecture sonore. Salut les gens, à la prochaine !